Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Tu es celui qui a créé le ciel et la terre. Tu es celui qui t'est révélé. Révélé dans la personne de Jésus, nous ne pouvions saisir Dieu qui remplit l'univers, mais ce Dieu éternel est devenu fini dans le cœur d'un homme et il est devenu fils pour nous révéler qui était Dieu. Et en lui, nous avons vu l'amour, la paix, la joie. En lui, nous avons vu le sacrifice et le don de soi. En lui, nous avons vu l'amour du prochain. Tu nous as aimés et tu as payé notre rançon. Il n'y en a point d'autre que toi. Toi, le Dieu créateur. Toi, manifesté en Jésus-Christ. Toi qui es mort et qui es ressuscité. Il n'y en a point d'autre que toi. Mais c'est devant ta majesté que nous prosternons à l'instant. C'est devant ta majesté que nous nous humilions. Oui, nous nous humilions. Nous avons besoin que tu nous fasses grâce. Nous avons besoin de ta grâce. Pour nous-mêmes, pour notre pays, nous avons besoin de ta miséricorde et de ta grâce en ces temps difficiles de haine, de méchanceté, de souffrance, d'égoïsme, de sottise, de corruption. Nous avons besoin de ta grâce afin de nous relever. Rends-nous sages par ta parole. Aide-nous à la comprendre. Parle-nous encore, ô Dieu. Nous avons besoin que tu nous parles, que tu nous secoues dans notre conscience, et que tu nous fasses comprendre qu'il y a quelque chose de bien meilleur que ce que nous avons ici-bas, et que cette vie est bien courte, mais l'éternité vient. Parle-nous à cette heure, je t'en prie, ô Dieu, par ta parole. Exprime-toi, s'il te plaît. Père, nous ne sommes pas capables si tu ne viens à notre secours. Ô, saisis nos bouches, et toi parle à nos cœurs, par ton esprit, et que nous mettions ta parole en pratique afin de vivre par elle. Nous allons lire dans l'évangile de Matthieu au chapitre 25. Matthieu au chapitre 25, à partir du verset 1er. Il y a maintenant déjà, c'était au mois d'août l'année passée, une année que nous avons commencé ces méditations systématiques des paraboles de Jésus, de ce que Jésus a enseigné et dit. Des paroles bien simples, souvent même pour l'homme intellectuel, raisonneur, sage de la sagesse du monde. Pour cet homme-là, ces paroles de Jésus sont d'une simplicité déconcertante. Il les lit et il passe par-dessus sans bien comprendre. Oui, c'est vrai. À une première lecture, elles paraissent bien simples, mais lorsque nous penchons et nous cherchons à connaître et à étudier quelque peu, nous allons voir une profondeur extraordinaire, une sagesse extraordinaire, des avertissements pour nous tous. Il faut plus que l'intellect pour comprendre la parole de Dieu. Il faut le secours du Saint-Esprit. Lisez la parole de Dieu, lisez-la, mettez-la en pratique. Ce n'est pas un fétiche que cette parole pour se promener avec sous le bras ou pour la mettre sous son oreiller. Non, elle est pour être lue et méditée en demandant le secours de Dieu et nous y découvrirons des merveilles. Et c'est par elle que nous vivrons. Et là, nous avons encore une de ces histoires que nous allons essayer de sonder quelque peu ce matin. J'essaye de le faire, mais je sais que je n'épuise pas le sujet. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux où tardait, toute s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Dans ces chapitres de Matthieu, nous avons une série de paraboles qui ont trait au royaume des cieux. Le Seigneur essaie d'enseigner, dans un langage très simple, ce qu'est le royaume des cieux. Et là, dans cette parabole qu'il donne ici, parmi plusieurs, il conclut en disant, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez !» Le Seigneur appelle ses enfants à veiller. Veiller ne veut pas dire garder les yeux ouverts sans dormir. Certes, non. Mais veiller veut dire là, appliquer la parole, obéir à la parole, faire ce qu'il nous commande de faire. Marcher en soumission à cette parole et vivre par elle. Le Seigneur a tant de choses à nous enseigner, mais nous sommes si lents à apprendre. Nous sommes tellement embourbés dans toutes sortes de traditions, toutes sortes de préceptes humains, toutes sortes de doctrines qui parcourent nos rues, à tel point que pour finir, en entendant les contradictions qui se prêchent et qui se disent, on rejette tout et on suit, comme on dit, sa propre conscience. Mais notre propre conscience ne peut nous faire parvenir dans le royaume des cieux, puisque tout est faussé par le péché. Et le grand problème de l'humanité est le péché. Le péché nous fait nous entre-déchirer les uns les autres. Le péché fait parler les canons et les armes. Le péché amène la haine entre tribus et races, entre ethnies. Le péché détruit. Le péché est une malédiction. Et tout homme motivé par le péché, par l'égoïsme, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien, est un homme qui s'égare. La première chose, si nous voulons marcher dans la vie chrétienne, c'est d'être libéré du péché. Aucun homme qui vit dans le péché peut avoir une perception normale des choses spirituelles. C'est la raison pour laquelle, alors que nous essayons de trouver notre voie, nous continuons à nous égarer, malgré la Bible que nous avons sous le bras, malgré que nous allons à l'église ici et là, malgré que nous écoutons toutes sortes de prédicateurs et d'enseignements contradictoires. Nous n'arrivons pas à trouver la voie parce que nous n'avons pas fini avec le péché. Et trop souvent, même ceux qui nous annoncent l'Évangile vivent dans le péché et ne sont pas des exemples. Et trop souvent, ceux qui ont la Bible sous le bras vivent dans le péché et ne font pas ce que la parole de Dieu nous dit. Ils affirment des choses sans les avoir expérimentées eux-mêmes. Ils affirment des choses contraires à la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas une perception juste, déviée qu'ils sont par le péché, par la convoitise, par la cupidité, par la soif des satisfactions de la chair, par l'égoïsme et quoi encore. Frères et sœurs, nous ne pouvons comprendre les choses de Dieu. Nous ne pouvons comprendre ni marcher dans la lumière si nous sommes encore esclaves du péché. Comprenons bien que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu en chair, Dieu incarné, est venu dans le monde pour nous libérer du péché, pour nous libérer de cet esclavage, de cette malédiction qui nous détruit les uns et les autres et qui détruit notre génération et notre monde. Oh Seigneur, nous sommes si lents à comprendre, nous sommes si lents à croire, nous cherchons toujours à adapter la parole de Dieu, à fabriquer notre idéologie et notre religion, Frères et sœurs, ce n'est pas une religion que je suis venu prêcher et que je prêche, mais je prêche un sauveur. Je prêche un sauveur qui est venu dans le monde pour nous libérer de l'esclavage du péché. Jésus, il est venu, il a enseigné. Beaucoup n'ont pas cru, mais beaucoup ont cru aussi. Il est venu pour prêcher le royaume des cieux. Nous avons là une histoire merveilleuse. Là, de nouveau, nous rentrons dans une fête. Déjà, dimanche dernier, vous vous souvenez, vous qui étiez là, dimanche dernier, nous avons souligné particulièrement cet aspect que Jésus touche toujours, du banquet, de la fête, des invitations qu'il dit, qu'il donne pour participer à la fête. Les noces, le mariage, la joie, le bonheur. Mais c'est rien d'autre que cela, le royaume des cieux. Et c'est ça qu'il voudrait faire comprendre. Dimanche dernier, nous avons parlé de cette histoire qu'il a donnée, Jésus lui-même, de ce grand homme qui avait invité des gens pour venir à son grand banquet. Et quand tout était prêt, il envoie ses serviteurs, dites-leur que tout est prêt. Mais chacun avait une excuse. Il plaçait ses affaires personnelles au-dessus de l'invitation du grand roi. « Oh, je viens d'acheter 10 paires de bœufs, il faut que j'aille les essayer, je ne peux pas venir, excuse-moi. Oh, je viens de me marier, écoute, je ne peux pas venir, excuse-moi. Oh, j'ai acheté un champ, et je ne peux pas venir, excuse-moi. » Alors, le maître a dit à ses serviteurs, « Allez partout, allez dans les rues, allez sur les boulevards. » Allez le long des chemins, ramassez tous ceux que vous trouverez, les blessés par la vie, les estropiés, les manchots, les boiteux, les unijambistes, les aveugles, les muets, les sourds, les malades, les sidatiques, ramassez-les et remplissez ma maison. Frères et sœurs, sa maison doit être remplie. Elle doit être remplie. Chaque place seront remplies, mais elle ne sera pas remplie par des gens bien. C'est ça que j'aimerais vous dire. Sa maison là-haut, où nous allons, ne sera pas remplie par des gens bien. Elle sera remplie par les boiteux, par les aveugles, par les estropiés, par ceux que le monde ne veut pas, par ceux qui sont méprisés, ceux qui mendient le long des routes, ceux qui sont malheureux. Et chacun d'entre nous, lorsque nous serons assis à sa table, frères et sœurs, s'il ne nous touchait pas, s'il ne nous changeait pas, ça serait un triste spectacle. Des boiteux, des aveugles, pleins de cicatrices de la vie que nous avons menée ici-bas sur cette terre. Des cicatrices morales, des cicatrices physiques, des estropiés. Voilà ce que nous sommes. Sans la grâce de Dieu, que pouvons-nous être de mieux? Mais en sa présence, tout le passé disparaîtra. En sa présence, tout le passé disparaîtra. Le borgne verra, l'aveugle verra, le boiteux marchera, le sourd entendra, le muet parlera, car notre Dieu est un Dieu de miracles. Qu'attendez-vous pour répondre à l'invitation? Qu'attendez-vous pour remplir la salle des noces? Qu'attendez-vous? Chaque fois, Jésus répète, le royaume des cieux, c'est un banquet. Le royaume des cieux, c'est une noce. Le royaume des cieux, c'est une fête. Vous aimez la fête? En voilà une dans laquelle il vous invite. Qu'attendez-vous donc? Les mariages, à cette époque-là, étaient célébrés la nuit. On ne savait jamais quelle heure exactement. C'était la tradition. La tradition, l'époux venait quand il décidait de venir. Il venait et ensemble on descendait en procession jusqu'au domicile de l'épouse. Et là, il y avait la salle de banquet. Et il y avait des jeunes filles qui étaient des filles d'honneur qui participaient là. Des filles d'honneur. Elles portaient chacune d'elles des lampes. Des lampes qui souvent consistaient en un bol d'argile cuite. Dans cette argile, dans ce pot d'argile, il y avait un chiffon, un vieux chiffon imprégné d'huile. Et ce pot était attaché à une perche. Et c'est ainsi qu'elle s'éclairait dans la nuit. Et alors qu'elle marchait dans la nuit, cela faisait une chaîne de lumière oscillante et scintillante. De quoi frapper l'imagination, la poésie. Oui, on avait beaucoup plus de charme et de poésie à cette époque-là. Aujourd'hui, on a oublié toutes ces dimensions de la finesse, de la beauté, de la poésie et de la musique. On tourne les baffles au maximum. Ça crie à vous percer les tympans. On crie à avaler dans les micros. Et on se dandine des danses obscènes. On appelle ça la joie en se remplissant d'alcool. Quelle joie du monde! Une joie épouvantable qui n'est que l'exaltation de la chair, le débordement et l'excitation des sens et qui nous amène à pécher encore plus. Non, je crois à la beauté qui est autour de nous, est-ce que nous la voyons encore? La beauté d'une fleur qui s'ouvre avec toutes ses couleurs chatoyantes. La beauté d'une feuille, rien qu'une feuille. Cette feuille qui a en elle-même toute une usine de transformation du gaz carbonique en oxygène. Cette merveille de la nature, s'il n'y avait pas de plantes parmi nous, nous étoufferions empoisonnés nous-mêmes. Et ce fleuve qui passe et qui passe encore rempli de poissons, nous ne savons même plus les voir, ces belles choses, ces montagnes à l'horizon, cette nature, ces plantes extraordinaires. Personne ne les plante là, dans cette grande forêt. Elles poussent, elles sont belles, elles sont pleines de vie. Et tous ces petits animaux là en dessous, ces parcs avec ces éléphants majestueux qui se promènent, pleins de force et de beauté, ces antilopes. Nous ne savons plus voir ça. Nous savons que détruire et détruire et détruire encore. Détruire par notre machine, détruire par notre cupidité, détruire par notre envie, détruire par notre jalousie, par notre méchanceté, détruire par notre égoïsme. Nous voulons prendre ce que l'autre possède et pour cela nous le détruisons. Chaque jour, tous ces coups de canon de l'autre côté du fleuve nous rappellent la triste réalité de l'humanité, cupide, égoïste, méchante, orgueilleuse. Et ceci nous fait mal. Chaque fois que j'entends ces coups de canon, ça m'humilie. J'ai envie de pleurer. Combien vont mourir maintenant? À cause de la cupidité, à cause de la méchanceté, à cause de l'indifférence. À cause de quoi? Du péché. Le péché est une chose épouvantable. Regardez un peu autour de vous. Regardez dans vos propres familles. Regardez la destruction que l'ennemi accomplit. Regardez dans la société. Regardez ici au Congo. Nous essayons de reprendre surface. Nous n'y arrivons pas. Avec peine, et personne n'est content. Et tout le monde crie, et tout le monde parle, et des innocents meurent pour rien. Pourquoi? Aucune patience, la cupidité, l'argent. Bien sûr qu'on a besoin d'argent, mais l'argent se fabrique comment? Par le travail. Et le travail, sommes-nous en train de le faire? On jette toujours la responsabilité sur un autre. Mais on refuse de prendre sa part de responsabilité. Le péché, toujours le péché. Oh, la beauté! Dieu aime la beauté, Dieu a fait la beauté. Satan cherche à la salir, la beauté, à la détruire. Alors qu'elle marchait dans la nuit, cela faisait une chaîne de lumière oscillante et scintillante dans le noir. Bien souvent, elle devait attendre jusqu'à ce que les poules se manifestent. Alors, elle plantait leur perche dans le sol avec la lumière qui brûlait dans le pot de terre. Et s'il tardait trop, elle faisait un petit somme en attendant. Peut-être quelque part sur l'herbe, peut-être quelque part sur quelque chaise là, à l'extérieur. C'est la scène que Jésus décrit. J'aimerais que vous le compreniez bien. C'est la scène que Jésus décrit et qui est devant nous. Subitement, alors qu'elles sont assoupies, l'heure passe, elles sont fatiguées, elles commencent à dormir un peu, à s'assoupir. Subitement, un cri retentit. Voici l'époux! Immédiatement, on réagit, on revient à la réalité. Chacun pense à sa lampe, on ranime sa lampe. Cinq d'entre elles ne peuvent ranimer leur lampe parce que l'huile manque. Il n'y a plus qu'une petite flamme qui fume comme cela. Il n'y a plus d'huile à l'intérieur. Elles n'ont pas de réserve. Tandis que l'autre partie de ces jeunes filles ont prévu. Ah, ont prévu. Elles ont une réserve. Elles prennent leur réserve, elles versent cette réserve dans leur lampe. Et la flamme est ranimée. Vous voyez, il y a des gens qui ne prévoient jamais rien. Il y a des gens qui ne veulent pas prévoir ni planifier. Mais ce n'est pas ainsi que ça marche. Ce n'est pas ainsi que ça marche. Toute société a besoin de planification et non pas d'improvisation. Croyez-vous qu'il en est autrement pour le royaume des cieux? Il y a des gens qui sont des chrétiens, mais qui n'ont jamais rien réfléchi, rien planifié, rien préparé. Et ils disent, d'une façon très naïve, « Oh, Dieu pourvoira !» Et quand le moment de besoin est arrivé, les voilà qui prient vite, vite, « Seigneur, donne, Seigneur, donne, Seigneur, secours !» Et ils s'en vont mendier à gauche et à droite, « Donne-moi de l'huile, donne-moi de l'huile, donne-moi de l'huile !» Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Chacun doit réfléchir, chacun doit planifier, et chacun doit avoir sa réserve. Mais il y a des gens qui sont trop légers, comme ces jeunes filles. Vous savez, une partie de ces jeunes filles que la Bible appelle folles, elles sont légères. Oui, bien sûr, l'épouse va venir. Et puis, vous les voyez rigoler. Vous avez ces jeunes filles qui rigolent pour n'importe quoi? Tiens, 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 tiens. Manque de sérieux, manque de planification, manque d'intelligence, légère, légère. On ne pense qu'à sa belle toilette, qu'à sa façon de représenter. Bon, c'est pas mal. Je ne dis pas que ce soit mal, mais cherchons à être un peu plus sérieux et à penser à l'avenir. Oh, le Seigneur pourboira. Ben ça, c'est de la légèreté. Fais ce que tu dois faire et Dieu fera ce que tu ne peux pas faire. Mais il y a des gens qui ne pourvoient, qui ne prévoient rien. Dieu pourvoira. Et quand le temps est venu où ils sont dans le besoin, dans la difficulté, sous pression, les voilà affolés qui courent après comme des poules sans tête, après une solution à leur problème, elles dirent à leurs compagnes, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Voilà, on va mendier maintenant. On va mendier à gauche, on va mendier à droite, on va mendier à Dieu, on va faire des nuits de prière, on va, oh Seigneur, fais quelque chose, je sais que tu vas répondre, je sais quoi tu vas répondre. Mais non, Dieu ne fait pas ça comme ça. Tu n'as rien planifié. Tu n'as pas préparé ta provision. Nous voulons employer Dieu à notre convenance. C'est pas ça. Nous voulons que Dieu nous réponde lorsqu'on presse sur le bouton, voilà la réponse. Ce n'est pas ainsi que ça marche. « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Elles répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Mais non, j'ai prévu. Il y a des choses que nous ne pouvons partager avec les autres. Il y a des choses que nous ne pouvons donner aux autres. Et c'est ça que nous devons comprendre. Chacun est appelé à avoir sa provision. Elles y allèrent, elles achetèrent de l'huile, elles revinrent avec leurs lampes qui brillaient, mais la porte du banquet des noces est fermée. Ah, pourquoi? Tu as été trop léger, tu as été trop léger, tu as suivi ta propre voix comme tu l'entendais, tu as joui de la vie. Tu ne t'es pas inquiété, tu n'as pas été sérieux. Quant à ta marche avec Dieu, bien sûr que tu avais la Bible, bien sûr que tu venais à l'église, mais ça ne suffit pas. Pas de provision. Le moment du problème, le moment où la pression est là, on court partout pour quémander ce qu'on aurait dû avoir. Regardez comment commence cette parabole. Le royaume des cieux est semblable à des noces. J'aime cela. Jésus a beaucoup parlé du royaume des cieux. Rien d'étonnant. C'est pour cela qu'il est venu dans le monde. Il est venu dans le monde pour établir le royaume des cieux. Et pour établir ce royaume des cieux, il ne le fait pas à coup de canon, il ne le fait pas à coup d'armée, il ne le fait pas à coup de force humaine pour subjuguer la masse. Non! Pour établir de ce royaume des cieux, il fait d'abord ce qu'on pourrait appeler dans un langage populaire que je n'aime pas tellement appliquer là, mais qui exprime quand même quelque chose, il fait sa propagande.
Prêcher l'évangile, c'est quoi? C'est faire la propagande du royaume des cieux. Qu'est-ce que je fais maintenant? La propagande du royaume des cieux. Pourquoi? Comme il dit à ses disciples, pour régner dans les cœurs. Il leur a dit, le royaume des cieux est déjà au milieu de vous. Le royaume des cieux, il commence d'abord dans le cœur de l'individu. Et ceux qui composeront les membres de ce royaume, ce seront tous des hommes dans lesquels il règne déjà. Alors, dans ce royaume, il n'y aura pas de parti d'opposition. Alléluia!
Amen.
Mais ici, dans notre société d'aujourd'hui, il y en a toujours des mécontents. Même si vous proclamez quelque chose de bien, de raisonnable, il y en a toujours qui pensent mieux savoir que l'autre et qui ont, soi-disant, une meilleure solution au problème. Laissez-les faire. Parce qu'ici-bas, sur la terre, rien n'est parfait. Et il faut toujours compter avec un certain pourcentage d'opposants. C'est pas ça? Si ses opposants sont moins sages, ça va. Mais Jésus n'a pas voulu cela. Il est d'abord venu prêcher le royaume des cieux. Il est venu d'abord pour régner dans le cœur des hommes et des femmes, de ceux qui l'accepteraient. Il est venu pour être le Seigneur dans nos cœurs. Quand nous prions, nous disons « Seigneur ». Cela veut dire que nous reconnaissons son autorité sur nous. Il est Seigneur, c'est-à-dire qu'il règne. Mais combien de chrétiens disent « Seigneur » mais c'est eux-mêmes qui règnent. C'est eux-mêmes qui règnent, leur propre volonté, ce qu'ils désirent. Leur volonté n'est pas brisée, ils ne sont pas prêts à faire la volonté de Dieu. C'est seulement leur volonté, ils disent « Seigneur, Seigneur », mais ce sont des paroles vides de sens. Ils voient la différence, ils connaissent la différence. Ils ne veulent pas de traître dans son royaume. Il y a une fois un traître, alors qu'ils étaient 12 disciples. L'individu transformé, voilà ce dont nous avons besoin. Ce que Jésus veut faire et veut avoir dans son royaume, c'est une société transformée. Transformée par la puissance du Saint-Esprit. Transformée parce que le péché aura été ôté. Transformée parce que le péché étant ôté, la vision est plus claire, la compréhension est plus claire, les motivations sont pures, les actions sont justes. Voilà ceux qui seront membres de ce royaume. D'abord, il est venu pour proclamer ce royaume dans les cœurs et dans les vies. Avant d'établir ce royaume dans le monde entier, dans l'univers entier. Et ce jour arrive où il régnera de Jérusalem. Que les hommes le veuillent ou non, ceci se fera. La Bible nous en parle. Ce n'est pas pour rien qu'il y a tant d'effervescence dans cette partie du monde. Ce n'est pas pour rien que notre monde bouge partout où nous pouvons jeter le regard. Ce n'est pas pour rien, parce que nous arrivons dans les temps de la fin. Et son royaume s'établira sur cette terre. Il ne l'impose pas. Il envoie ses serviteurs. Il parle par leur bouche. Il appelle chacun à une décision libre, consentie. Chacun a un choix défini. Il est le roi de ce royaume. Et il explique en quoi consiste ce royaume. En quoi il consiste? Qui en fait partie? Et comment il prend place, ce royaume? Dans tout le Nouveau Testament, nous voyons ce royaume être développé de mille façons. Dans l'Ancien Testament, il est prédit, ce royaume, par la bouche des prophètes. Et je suis là pour vous dire que ce royaume sera établi et que le jour vient. Et pas de parti d'opposition dans ce royaume, car dans le royaume des cieux, ce n'est pas une démocratie, c'est une théocratie.
Amen.
Tellement mieux, tellement mieux! Les hommes ne sont pas capables de respecter l'opinion diverse des autres. Ils ne sont pas capables de respecter la personnalité d'un autre, le point de vue d'un autre. Nous voulons toujours dominer, avoir raison, montrer que nous sommes le meilleur. Ça, c'est le cœur de l'homme, motivé par le péché. C'est pour cela que la solution n'est pas là. D'abord dans les cœurs, après il remplira l'univers. Il l'a payé par son sang. Il remplira l'univers et il régnera avec ceux qui l'ont délibérément choisi. Et c'est une fête. Voilà ce que j'aimerais souligner. C'est une joie, c'est un bonheur. Ce n'est pas un joug, ce n'est pas une peine, ce n'est pas quelque chose de forcé, c'est quelque chose de choisi délibérément. Nous avons choisi le roi. une joie, un bonheur que rien ne troublera jamais. Une fête, tel est le royaume des cieux. Jésus est venu pour gagner l'humanité à sa joie. Selon l'évangile de Luc, c'est une parabole donnée durant la dernière semaine de sa vie sur la terre. Alors que l'étau se serre autour de lui, alors que les machinations sont en train de se faire par les religieux pour lui prendre la vie, mais ceci n'affecte pas sa joie. Ceci n'affecte pas sa joie. Il n'est pas abattu. Il n'est pas brisé. Il disait à ses disciples dans son dernier discours, son tout dernier discours dans Jean 15, 11, « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Aïe, aïe, aïe. Alors qu'il va mourir dans quelques heures. Oh, il n'y a pas de joie plus grande que de donner sa vie pour ses amis. Cette joie vient du renoncement à soi pour faire la volonté du Père en faveur des autres. Être disciple de Christ. Il est venu pour chercher des disciples, des adeptes, des hommes et des femmes qui le suivent, des hommes et des femmes qui acceptent son règne, des hommes et des femmes qui disent « Oui, règne sur moi !» Pas des esclaves, non. Il n'oblige personne, non. Jamais il n'a obligé personne. Satan, il oblige. Satan, il casse tout. Mais pas Jésus, il frappe à la porte. Et il attend qu'on lui ouvre la porte. Être disciple de Christ, c'est porter sa croix. Oui, c'est porter sa croix. Et la croix est le prix à payer volontairement. Jamais personne n'a obligé Christ à porter sa croix. Il pouvait appeler une légion d'anges pour écraser ses ennemis, mais il ne l'a pas fait. Il a voulu payer la rançon de notre péché afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Volontairement, le disciple aussi accepte l'opprobre de Christ, accepte le rejet, accepte la moquerie de la société et des amis, accepte d'être différent, car les disciples de Christ sont des hommes et des femmes différents. Ils ne parlent pas comme les autres, ils ne font pas ce que les autres font, ils ne vont pas où les autres vont. Ils sont différents, on se moque d'eux, peu importe. On les rejette, peu importe. On les persécute, peu importe. On les tue à cause de leur foi, peu importe. Rien ne peut enlever la joie du disciple qui est réconcilié avec son maître. Oui, c'est une fête. La croix du chrétien a pour prix la joie. Le monde et ses plaisirs a pour prix l'amertume. Une vie livrée, donnée, est une joie qui passe toute autre joie. Oui, Seigneur, prends ma vie, faisant ce que tu veux. Seigneur, faisant ce que tu veux, je ne m'appartiens pas à moi-même, je t'appartiens, et que ta volonté soit faite dans ma vie, comme tu l'entends. Peut-être ce sera dur, peut-être ce sera la souffrance, peut-être ce sera le rejet, peu importe, si tu es avec moi, c'est le ciel sur la terre. Et il a dit, je serai avec vous à travers le feu, je serai avec vous dans les eaux profondes. Et il ne peut mentir. Le royaume est comme une fête. Et ce royaume commence en nous, maintenant. Le royaume doit être attendu avec expectation par ceux de ses disciples qui sont en alerte, qui veillent, qui attendent sa venue. Ils sont prêts. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez ou être en alerte ne veut pas dire être anxieux. Non, nous sommes dans la paix. Nous ne sommes pas dans l'anxiété. Ces filles qui attendaient l'époux s'endormir toutes les 10. Personne ne peut rester réveillé sans dormir. Notre corps a besoin de repos. Et si nous voulons garder l'équilibre physique, nous devons passer presque la moitié de notre vie à dormir. Terrible, hein? Mais c'est comme ça. Donc, personne ne peut rester éveillé et dire « Quand va-t-il venir? Quand va-t-il revenir ?» Non. Veillez. C'est une attitude de l'âme. Veillez, c'est une expectation là au fond du cœur. Veillez, c'est être fidèle en obéissant à sa parole et à ses commandements. Ces noces, quand vont-elles se manifester? parce que la Bible en parle. Le banquet, le grand banquet des noces de l'agneau dans la maison du Père. Apocalypse 19, 9, par exemple. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Oh, vous aimez les fêtes, en voilà. Dans Matthieu 8, 11. Plusieurs viendront de l'Occident et de l'Orient et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Je vous invite. Je vous invite. Venez aux noces. Tenez votre lampe allumée avec votre réserve d'huile. Le royaume des cieux est semblable à des noces. Voilà ce que Jésus dit au début de cette parabole. Non seulement dans le futur, mais déjà maintenant dans le présent, car il y a dans nos cœurs une joie, une paix, un bonheur que personne ne peut ôter. Puisque le royaume des cieux est déjà commencé parmi vous, en vous, donc la joie du royaume est déjà en vous. Nous n'attendons pas la fête, la joie qui doit venir dans un futur inconnu. Mais cette fête est déjà dans nos cœurs, cette joie nous inonde déjà. Cette parabole nous parle de la vie maintenant, de la vie en abondance et dans le futur, la soudaineté de l'événement. L'événement le plus grand de l'histoire. Et la trompette sonnera. Et les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants, nous serons changés en un instant pour aller à la rencontre du Seigneur qui nous attendra là-haut dans les airs. Et ensemble, nous irons avec lui dans la gloire. C'est ce que la Bible dit. Il est parlé aussi de la voix de l'archange qui remplira l'univers. Voici l'époux, la venue du royaume. Avec le roi. Parce que tout royaume doit avoir un roi, n'est-ce pas? Dans Matthieu 24, 36, il est dit, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Il viendra, est-il dit, comme un voleur dans la nuit. » Voilà. « Il reviendra, est-il dit encore, comme une inondation. » Comme un déluge, dans Matthieu 24, 35, il est dit, dans les derniers jours qui précédèrent le déluge, ils ne se doutèrent de rien. Chacun mangeait, buvait, achetait, vendait, se donnait en mariage, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ah. Il reviendra, est-il dit encore. Comme d'un maître qui est parti dans un pays lointain et il tarde de revenir. Il a donné la charge à ses serviteurs et à son intendant. Voilà comment tu dois conduire les affaires de ma maison. Mais voyant que le maître tarde, l'intendant, rempli d'orgueil, commence à opprimer les serviteurs, à les battre, à ne pas leur donner leur salaire qui leur est dû. Est-ce que nous ne faisons pas ça, nous ? Et à essayer de donner le moins possible pour avoir le plus possible pour nous-mêmes. Pensant que le maître ne reviendrait jamais. Et il y a des gens qui pensent, oh, il n'y a pas, Dieu n'intervient pas, on peut faire tout ce qu'on veut. Celui qui vole, c'est celui qui réussit. Moi qui veux vivre honnêtement, je n'en réussis pas, je vais faire comme eux. Non, ça ne paye pas. Car un jour, le maître vient et il demandera des comptes. Il patiente, il parle. Plus tu connais, plus tu refuses, plus tu es responsable. Car un jour, il demandera des comptes. Tu demandes des comptes aux autres. Un jour, Dieu te demandera des comptes à toi aussi, de ta gérance. Ne soyons pas des insensés. Oui, il reviendra comme un maître qui revient d'un long voyage et qu'on n'attendait plus. La Bible nous dit aussi qu'il reviendra. Il reviendra comme un époux tant aimé. Un époux qui tarde et qu'on attend avec impatience. Un époux qui est là dans le cœur. On travaille, on fait son devoir chaque jour, mais dans l'esprit, dans la pensée. Quand c'est qu'il va venir? Quand c'est qu'il va venir? Combien de fois dans ma vie n'ai-je pas dit, « Oh Seigneur, j'en ai assez. Quand vas-tu venir ?» Le péché, la violence, la méchanceté, la mort, l'injustice, le vol, la corruption. J'en ai marre. Oui, je l'ai dit plusieurs fois. Certaines fois, j'ai dit, oh, si le Seigneur pouvait m'enlever, paf, que je parte. Ça serait formidable. Non, non, non. Ce n'est pas comme cela. Tu as encore quelque chose à faire. Alors je veux que tu le fasses. Aide-moi, Seigneur, à faire ce que tu veux que je fasse. Donne-moi une voix qui puisse parler et prêcher encore, avertir l'humanité pendant qu'il est temps. Nous avons trop souffert dans notre pays pour rien, à cause du péché. Il est temps de revenir au Maître. Bientôt, il nous demandera des comptes. Son retour est comparé à une image terrible et négative d'un voleur, d'une inondation, soit à une image joyeuse et merveilleuse de retrouvailles, à la réalisation d'un rêve qu'on a rêvé pendant longtemps, un rêve doux et précieux. Ces images sont une réalité aussi bien négative que positive, car elles sont négatives pour ceux qui l'ont rejetée, mais positives pour ceux qui l'ont reçue. Le déluge ou l'inondation, lorsqu'elle vient, elle balaye tout. Vous avez vu sur les médias ces inondations terribles qu'il y a à tout moment dans certaines parties du monde. Subitement, des pluies torrentielles, les rivières gonflent, les ponts sont emportés, les voitures comme des fœtus de paille sur l'eau, les maisons s'écroulent, des glissements de terrain. On n'attendait pas l'inondation, mais elle est venue. Elle détruit tout, elle emporte tout. C'est un jugement. Et quand Jésus reviendra, ce sera un jugement pour ceux qui ne l'ont pas accepté. Le voleur, quand il vient, il prend ce qui est précieux. Et croyez-moi, quand Jésus reviendra, oui, pour le monde, ça sera comme un voleur. Pourquoi? Parce que tout ce qui est précieux sera enlevé. Voilà pourquoi. Tous ceux qui ont dit non à la corruption, qui ont dit non à l'injustice, qui ont dit non au péché, qui ont dit non à la souillure sous toutes ses formes et aux mensonges, et qui ont vécu une vie telle qu'ils le désirent, ils sont précieux à ses yeux, ils seront enlevés. Oui, l'élite du monde sera enlevée. L'élite, selon Dieu, ce n'est pas forcément celui qui a de grands diplômes et des titres académiques, non, mais c'est celui qui a dit non au péché, qui s'est repenti et qui vit une nouvelle vie à cause de Christ. Le voleur prend ce qui est précieux et laisse derrière le désarroi et le vide. Telle sera sa venue pour le monde. Mais le parent, l'ami, le maître, qui revient enfin, qui avait parlé de son retour et qu'on a attendu avec impatience, l'époux, qui revient enfin, qui a tardé, enfin le voilà. Telle sera sa venue pour les croyants, joie, bonheur, réalisation d'une longue attente. C'est pourquoi veillez. Oh, je vous assure, quand j'entendrai cette voix qui remplira l'univers et que mon corps sera changé en un instant, une joie immense, je me sentirai partir. J'attends ce moment. Et si je meurs avant ce jour-là, je sais que je sortirai du tombeau avec un nouveau corps. Pourquoi craindrais-je la mort? Pourquoi craindrais-je les féticheurs et les puissances de Satan? Car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Non, je veux combattre. J'ai accepté de combattre et je veux combattre. Ce n'est pas que je puisse, je suis si faible, mais celui qui est en moi est plus fort et avec lui, je suis plus que vainqueur. Seigneur, donne-moi la volonté, donne-moi le courage et donne-moi la foi. Père, afin de proclamer cet évangile et que beaucoup puissent se joindre à cette élite, c'est pourquoi veillez. Veillez à la tentation qui surprend et attaque subitement sans vous y être préparé. Subitement, l'ennemi passera des pièges devant vous. Des pièges! Veillez! Veillez, le voleur ne vient que pour voler et pour détruire. Ce voleur, c'est Satan. Il veut prendre ce que Dieu vous a donné. Il ne doit pas vous surprendre, mais vous le chasserez au nom de Jésus. Veillez! Celui que vous attendez peut venir à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Veillez! L'époux que vous attendez depuis si longtemps vient vous chercher. Veillez! Il veut vous faire entrer dans la salle des noces, car voici, tout est prêt. Nous devons être prêts, non seulement pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Nous ne sommes pas des gens négatifs. Nous attendons quelque chose de meilleur. Peut-être vous pensez que le pire est encore devant vous, pour le monde, oui, mais pas pour ceux qui ont veillé. Nous attendons le meilleur. Nous devons être prêts, non seulement pour le pire, mais pour le meilleur. Nous sommes ses enfants. Nous attendons non seulement pour le voleur dans la nuit, mais aussi pour l'époux qui vient nous chercher. Tenez vos lampes allumées. Les ténèbres sont grandes et la peur dans le monde envahit tout. L'avenir est incertain. Les peuples sont comme la mer agitée, continuellement en mouvement, jamais satisfait, toujours dans la rue pour faire des revendications. Car leur problème n'est pas un problème politique, c'est un problème de péché, un problème spirituel. Qui reconnaît Dieu aujourd'hui dans notre société? Qui lui donne la place dans nos parlements? Qui écoute sa parole? Qui? C'est lui qui nous a créés et c'est lui qui a fait ce monde. Et nous faisons que de l'ignorer. Mais nous savons bien aller au féticheur et reconnaître son ennemi. Nous savons bien venir avec nos fétiches cachés dans nos vestes et dans nos costumes. Nous savions bien nous appuyer sur quelques charlatans d'Amérique ou d'Europe ou des Indes et que sais-je encore. Quant au Dieu qui nous a créés, nous lui crachons dessus et nous voulons l'ignorer. Nous porterons les conséquences de nos actions. Avez-vous votre réserve d'huile? Nous prions, nous chantons, nous travaillons dans l'œuvre de Dieu. Mais avons-nous une réserve d'huile? Il y a des gens très actifs. Ils font beaucoup de choses. Ils travaillent dans l'église, ailleurs, que sais-je. Et quand la pression vient, la réalité avec le besoin immédiat, c'est la panique. C'est la panique. On court partout chercher du secours. On court vers celui-ci, on court vers celui-là. On fait des bêtises, on est épuisé, on est fatigué. Pourquoi? On n'a pas de réserve. On n'a pas de réserve. Tout le monde pensait, oh, lui, c'est un grand, c'est un fort, il a des moyens, il est intelligent. Mais le moment où la pression vient, voilà la panique. Pas de réserve. Toute provision, sachez-le, se trouve en lui. La provision dont vous avez besoin ne se trouve pas en moi. Cessez de mendier au pasteur. Cessez de mendier les uns aux autres. Cessez de frapper là à la porte du monde entier, des gens que vous voyez et qui ont peut-être de l'argent. Cessez! Toute provision se trouve en Jésus seul. Même pour la nourriture de chaque jour. Même pour le minerval, pour l'école. Même pour la garantie locative. Même pour le vêtement que vous devez porter. Priez! Mais voilà, vous n'avez pas de provision en vous-même. Pourquoi? Parce que quand tout allait bien, vous n'avez jamais pensé à Dieu. Mais voilà, vous n'êtes pas allé à lui. Quand tout allait bien, vous l'avez ignoré. Vous n'êtes pas allé à lui pour s'approvisionner. Et maintenant, à la dernière minute, on veut que tout soit donné subitement par un acte magique. Par ceux qui sont autour. On fatigue tout le monde en mendiant et on accuse Dieu. Seigneur, j'ai fait une nuit de prière, tu ne m'as pas répondu. Seigneur, j'ai passé du temps, tu ne m'as pas répondu. Seigneur, on s'imagine que maintenant, alors qu'on prie et qu'on fait une nuit de jeûne et de prière, par magie, comme si on presse sur un bouton, la réponse va venir. Non, ce n'est pas ainsi que ça marche. Tu n'as même pas pensé à Dieu quand tout allait bien. Rien. Tu n'as même pas de provision. Maintenant, tu es dans la panique. Humilie-toi et demande pardon. Voilà la première chose à faire. Nous travaillons, nous mangeons, nous parlons, nous dormons. Rien ne nous parle du retour du roi. Rien qui annonce les armées célestes. Et pourtant, si nous lisons sa parole, nous voyons et sommes avertis. Mais beaucoup seront surpris. Parce qu'ils ignorent tout. Ils ne pensent qu'à leur bien-être terrestre. Subitement, il y aura le cri qui retentira. Voici l'époux. Alors, ce sera trop tard. On court chercher des provisions qu'on aurait dû avoir. Mais la porte est fermée. C'est dans les temps de difficulté, dans les temps d'épreuve, dans les temps imprévus de problèmes, que l'on peut voir la profondeur et la force spirituelle d'un homme. Ne soyez pas négligents quant aux vraies valeurs. ayons en nous une provision que nous dormions à l'heure de la nuit, au moment où le corps fatigué et épuisé demande le repos. Tout cela est naturel. Mais si nous n'avons pas de provision en nous-mêmes, pour le jour où l'imprévu nous touchera, cet imprévu, il peut être le cri de minuit, cet imprévu peut être notre départ d'ici-bas sur la terre, un arrêt cardiaque et tout est terminé. Cet imprévu peut être le retour du grand roi et la voix que nous entendrons dans l'espace. Voici l'époux. Si nous n'avons pas prévu d'avoir la provision pour ce moment-là, alors c'est grave, car il n'y a pas de recours quand Dieu fermera la porte. Trop tard, avoir la provision, c'est veiller. Avez-vous cette source, cette ressource intérieure? Avez-vous ce potentiel? Avez-vous cette force en excédent, c'est-à-dire au-delà de ce que vous avez besoin? Avez-vous cette provision qui vous permettra de parcourir le dernier kilomètre? Cette provision supplémentaire qui vous permettra d'endurer la dernière épreuve? Cette provision supplémentaire qui vous aidera à supporter la dernière persécution? Avez-vous en vous cette provision supplémentaire qui vous permettra de gagner la dernière bataille? Nous ne pouvons pas vous donner notre provision. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Pour cela, nous ne pouvons compter sur un autre ou dépendre d'un autre. Nous avons tellement l'habitude de nous appuyer sur les hommes. Je vais aller voir ce grand homme d'affaires. Je vais aller voir cet opérateur économique. Je vais aller voir ce ministre. Je vais aller voir ce grand Mukunzi quelque part. Il va m'aider. Mais n'avez-vous pas compris que ce sont des gens comme vous, et bien souvent, trop souvent, des gens corrompus qui ont besoin du salut? Vous êtes dans le besoin. Alors, connaissez qui est le maître. Frères et sœurs, attention, cessons de compter sur les hommes. Avons-nous fait ce qu'il faut pour avoir notre provision? Dieu n'est jamais à court. Dieu ne sera jamais dans la faillite ou dans la banqueroute. Ses actions montent et montent toujours. On ne peut emprunter la foi d'un autre. Souvenez-vous de cela. On ne peut emprunter l'esprit d'un autre. On ne peut emprunter l'intégrité d'un autre. On ne peut emprunter la force morale et la force de caractère d'un autre. Nous devons avoir notre propre provision, notre propre ressource qui nous sera donnée si seulement nous demandons. Allons, avant qu'il ne soit trop tard, allons vers celui duquel vient tout don parfait, comme disait l'apôtre Paul, et qui dit, demandez et vous recevrez. Avez-vous seulement demandé une fois? Et celui qui veut nous donner son abondance, la force nous sera donnée là où elle se trouve. Alors demandez-la, là où il y a le dépôt. Allez à la source. La force accumulée, quand tout va bien, sera décisive au jour du besoin et de la bataille. Tout va bien maintenant pour vous, physiquement. Tout va bien pour vous, ou à peu près. Vous arrivez à vivre, regardez la tête au-dessus de l'eau, ça va. Ayez le contentement, amassez des provisions, car des jours pires risquent de venir. Lisons la parole de Dieu jusqu'à ce qu'elle soit la texture même de nos pensées. Prions jusqu'à ce que nos prières soient entendues, attendues de chaque instant. Que nos prières soient et deviennent une attitude de chaque instant. Regardons à Jésus jusqu'à ce que son image soit imprimée en nous, dans notre cœur, dans notre conscience, de telle façon que tout ce que nous faisons, nous le voyons à travers lui, de façon que nous soyons jamais surpris, sans défense, sans protection, sans recours et sans provision. Écoutez-moi, mes frères, une dernière pensée à bien noter. Il n'y a pas d'improvisation dans le royaume des cieux. Il n'y a que de la préparation. Y avez-vous pensé? Beaucoup de gens veulent improviser. Dieu pourvoira, Dieu pourvoira. Dieu m'aidera, Dieu m'aidera. C'est de la légèreté. Ils n'ont aucune provision et rien. Ils n'ont pas assuré leur fondement.